Radio Stardust.
Morning Edition from
NPR.
France Inter, le 18-20.
Toute la coque sera recouverte par des motifs faits à partir de tongs que l'on trouve sur nos plages. Ce sera donc un boutre très coloré.
Prenez des tongs, des bouteilles, des gobelets, des bidons, des jerrycans, des morceaux de tout en plastique. Faites-en un bateau, ça se passe au Kenya. Le plastique, c'est celui qui est ramassé sur les plages. Et l'embarcation est prévue pour aller jusqu'au Cap. C'est à 5000 km, faudra que ça tienne. Et c'est l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Sous les radars, Virginie Pironon avec des Indiens lynchés sur une rumeur propagée par WhatsApp. Vous verrez aussi pourquoi les fraises espagnoles sont si peu chères, avec des conditions de travail pour celles qui les ramassent. 18h50, la carte blanche des correspondant de France Inter en Italie avec un Salvini qui s'en prend à l'auteur de Gomorra, au Royaume-Uni aussi avec une histoire de Fatberg peu ragoûtante. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four et cette ouverture de sommet européen tournée vers les migrants. Vous verrez que la Coupe du Monde de foot, c'est un peu justement un mini sommet migrant dans les surfaces de réparation, mais ça se passe beaucoup mieux. Avant cela, On the Road Again ce soir, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Allez, je vous suggère que de nous perdre un peu ce soir dans Un jour dans le monde. Prenons des routes mythiques et fantasmées. Une bonne manière de clore cette saison et de partir les cheveux au vent. Bonsoir Alain Musset.
Bonsoir.
Vous signez, vous dirigez ce livre chez Armand Collin. Ça s'appelle « Sept routes mythiques quand l'histoire se mêle à la légende », à chaque fois illustré par un dessinateur. Et bonsoir Franck Margerin.
Bonsoir.
C'est vous qui illustrez le gros chapitre sur la route 66, puisque vos bikers, oui, qui sont un peu les nôtres, comme moi, veulent une Harley et vous les emmenez sur la route 66. On va y aller ensemble, mais Alain Musset, je voudrais quand même qu'on rende un peu hommage aux six autres routes, parce qu'elles sont là et qu'elles sont belles aussi. Il y a un point commun, alors c'est le cas de la 66, mais des autres. Et le point commun, c'est le mythe, en fait. Il y a un moment où ces routes-là cessent d'être un moyen pour aller de A jusqu'à B, mais bien autre chose, et très très vite, en fait, dans leurs histoires, finalement.
Ben, oui, effectivement, et c'est d'où tout l'intérêt de travailler sur toutes ces routes. Donc 7, on aurait pu en prendre plus, mais 7, c'est un beau chiffre. Bon, c'est un chiffre mythique, lui aussi. Et donc l'idée, c'était de partir de la plus ancienne.
La
Via Appia, et d'arriver jusqu'à l'époque contemporaine avec la 66, la Nationale 7, et on termine avec Paris-Roubaix, qui est là aussi une route mythique. Et l'idée, c'est ça, voilà, c'est de partir sur la route et d'imaginer.
Et en passant par les routes de la soie, par les routes Inca, par les chemins de Compostelle, etc. Ce qui est fou, c'est que la route est le personnage, et c'est surtout la représentation du monde aussi qu'on peut en avoir. Le chemin des Incas, par exemple, était censé rassembler 6 pays, articuler la cordillère des Andes, c'est un mythe total parce que ça n'a jamais eu lieu réellement en fait. La route est là, l'idée de la route est là, mais pas la route en fait.
Eh bien, elle y est aussi matériellement, ouais. Elle a existé, mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on essaye de la patrimonialiser, c'est le patrimoine de l'humanité, mais pour les gens qui sont les gens du coin, les paysans, tout ça c'est quoi? C'est un vieux machin, on ne l'utilise pas, ils aimeraient plutôt avoir une belle route bien goudronnée, hein, tandis que là, bah, il faut faire avec. Donc d'en haut, on leur dit c'est génial, et d'en bas, ils disent, bah oui, mais c'est pas facile de marcher dessus, quoi.
Et parfois, c'est quand même, ça reste quand même parfois une identité nationale que ces routes-là. La nôtre, notre nationale 7, elle a vraiment de ça. Mais celle-là aussi, cette route Inca, finalement, pour beaucoup, c'est aussi une manière de revenir à l'époque pré-espagnole, de se réapproprier une identité qui n'existerait pas sans ce lien d'asphalte, en fait.
Tout à fait, et pas nécessairement d'asphalte, hein, puisque...
Ou de terre.
Ou de terre.
Ou de ponts, souvent des ponts, d'ailleurs.
Des ponts, les ponts dans les chemins des Incas, effectivement, sont fondamentaux, puisque c'est eux qui relient les vallées les unes aux autres. Et donc, il y a effectivement une quête d'identité. On essaye de se retrouver, on essaye de se replonger, de retrouver des racines, et cette route qui est un fil, je dirais, horizontal, est aussi un fil vertical qui unit les générations. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire.
Et c'est vrai que quand on parle de ces routes-là, c'est le cas de tout. On ne dit pas j'ai été à tel endroit, on dit j'ai fait cette route.
J'ai fait cette route.
Il n'y a que le voyage qui compte, en fait. Peu importe les villes par lesquelles on passe, finalement.
Bah, avec Franck, j'ai fait la route 66, il a fait la route 66. Et on se dit.
Entière
Pas complètement. C'est presque 4000 km, quand même. Ouais. Hein, donc, non, j'en ai fait qu'un bout. Franck a fait à peu près le même bout. Mais l'idée, c'est de se dire on y va, on y est. On l'a tellement vu, on nous a tellement parlé, on a tellement vu d'images, on les a sur les t-shirts. J'ai un superbe t-shirt avec historique Route 66. y être, c'est redécouvrir le mythe et participer au mythe. Et
alors, on va y aller, mais juste avant, je nous fais juste faire un tout petit détour par la route de la soie, parce que moi, ce qui m'a fasciné en voyant la carte, c'est pareil quand on voit la 66, mais là, je vois Kaboul, je vois Deresor, je vois Palmyre, je vois Damas. Ce qui est fou quand on regarde cette route-là, c'est qu'on se dit aujourd'hui, on ne peut plus le faire, en fait. On ne peut plus y aller dans ces coins-là, c'est terminé.
Alors, c'est assez difficile, il y a beaucoup de coins.
Terriblement nostalgique, du coup, et presque émouvant, en fait, en lisant ça.
Mais en même temps, la Chine récupère le mythe de la route de la soie. Ils ont leur grand projet route de la soie pour réaffirmer la place de la Chine dans le monde. Donc, c'est vieux, c'est récupéré et c'est réutilisé dans une perspective géopolitique.
Bon, allez, on y va. Allez. J'ai choisi la version des Stones. Merci. Enfin, Margerin, Get Your Kicks on Route 66, forcément, version Rolling Stone, qui a été chantée par je ne sais combien de personnes. Voilà.
1946.
Alors moi, il y a une chose que j'ignore. Pourquoi 66? Alors, d'où sort ce numéro?
Alors, le numéro, c'est très simple. Quand quand on a décidé aux États-Unis de faire ces grandes routes nord-sud et est-ouest, les routes nord-sud, c'était des numéros impairs. Les routes est-ouest, c'était des numéros pairs. Et ensuite, il y avait des lobbies pour favoriser ces routes, pour les construire, de constructeurs, d'entrepreneurs, etc., etc. Et ils pouvaient choisir le numéro. Mmh. Et d'après la légende, et encore une fois, ça fait partie du mythe, ils ont pris 66 parce que en numérologie, ça apporte le bonheur, la santé, la prospérité, et donc c'est un bon chiffre. Donc, alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai?
Moi, j'ai 66 ans et je me porte très bien.
C'est un bon chiffre. Mais si on en parle encore de cette route, c'est donc que c'était un bon chiffre.
C'est un bon chiffre, effectivement.
Et alors, pourquoi Chicago également? Pourquoi le démarrage à Chicago? On imagine bien l'arrivée vers le Pacifique. Ça a toujours été par là, de toute façon, que les États-Unis partent. S'ils s'arrêtent à la Californie, c'est juste qu'après, il y a de l'eau.
Après, il y a l'eau.
Mais pourquoi ça commence à Chicago?
Parce que c'est Chicago, même avant New York, c'est la ville de la modernité, c'est la ville où se crée en fait le nouveau mythe américain. Mm-hmm. Et donc ça part de Chicago parce que c'est la grande ville industrielle, c'est là où il y a les premiers gratte-ciel, c'est avant New York, hein, faut pas oublier. Et c'est cette route-là qui, dans les années 20, va relier Chicago jusqu'à Los Angeles, Santa Monica, plus précisément, parce que c'est aussi la région où l'on va fabriquer, où l'on commence à fabriquer les voitures. Sans les voitures, il n'y a pas de route 66. Et donc, c'est parce qu'on est dans une grande région industrielle qui produit de la voiture, eh bien, qu'on va partir. Et le point de départ, c'est effectivement Chicago. Ce n'est pas exactement la côte ouest. Il y a d'autres, évidemment, voies de communication qui vont vers Chicago. Mais le point de départ, effectivement, c'est cette grande région de la modernité, de la transformation, du fordisme, l'industrialisation. C'est de là que ça part.
On est en 1926. On est tout près de la Grande Dépression, juste avant, en fait.
C'est exact. Et ça joue effectivement un rôle, parce qu'au départ, la route, elle est faite pour suivre d'ailleurs le chemin de fer, mais ça va faire une transformation complète.
Et là, je voulais en venir aussi, c'est qu'il y a quelque chose de mythique d'aller chercher, comme à l'époque des pionniers, d'aller chercher l'Ouest, d'aller chercher la Californie, mais on y trouve aussi sur cette route, notamment en traversant l'Oklahoma, etc., des gens qui fuient cette Grande Dépression, qui sont complètement ruinés et qui vont retenter leur chance ailleurs, en l'occurrence en Californie, en passant par la 66.
En passant par la 66, et c'est Les raisins de la colère, le grand roman de Steinbeck, qui va ensuite être mis en image par John Ford. Et ça va créer là aussi du mythe. Il y a des images de la 66 qui vont revenir. C'est pas seulement le bling-bling, c'est pas justement les années 50 qui sont dans nos mémoires avec les grandes Cadillac, etc. C'est aussi cette épopée de la misère. Les gens qui ont tout perdu, les paysans qui sont chassés de leur terre et qui vont vers la Californie parce que il y a une espérance de travail, une espérance de meilleure vie, etc. C'est un mythe, là aussi, un nouveau mythe qui se construit.
Et là, Alain Musset, vous le décrivez bien et vous le dessinez bien aussi, Franck Margerin. Il y a toutes ces images, les stations-service, les diners, les motels. Il y a aussi une espèce de mythologie de ce qu'on trouve le long de cette route, en fait.
Oui, c'est ça. C'est tout ce qui fait rêver le biker moyen, on va dire. C'est les vieilles pompes à essence, les vieux diners, tout ce folklore. Et c'est vrai, quand on va là-bas, on croise des bandes de bikers et ce sont tous des touristes.
Bien sûr.
Il y a des bandes d'Allemands, d'Américains, pas d'Américains justement, d'Anglais, d'Australiens. Et tous font la route 66 avec la voiture qui précède avec les bagages. C'est assez drôle.
Et c'est fou parce qu'on a l'impression que finalement, en tant que route en soi, elle n'aura pas duré si longtemps que ça. Le mythe est venu beaucoup plus. En fait, c'est une illusion. C'est une Amérique fantasmée. Rien n'est réel, finalement, dans cette route 66. Non
Alain Musset. Si, elle est quand même réelle. Alors, parce qu'elle est matérialisée.
À un moment, il y a eu de l'asphalte.
Elle existe.
D'accord.
Là, pour le coup, on a de l'asphalte ou du béton.
Mais elle nous fait traverser que du fantasme,
c'est un décor,
du début à la fin. C'est un décor.
Oui, tout à fait.
Et quelqu'un comme Franck participe au mythe, quand il fait tout un album de BD avec Quadrado justement la conquête de l'Ouest par les bikers et qui passe par la 66, et bien, il reprend toutes ces images-là, tous ces petits hauts lieux qui deviennent extraordinaires.
Et c'est ce que viennent chercher aux personnages, mais comme on va tous chercher d'ailleurs quand on va dans ces coins-là. Si on tombe pas sur le mythe, on dit attendez, rendez-le nous. Quoi.
Oui, d'ailleurs on voit chez les bikers en France, ils ont tous des plaques de route 66 chez eux, ça c'est incontournable.
À quel moment d'ailleurs, ça devient ce qu'on entend derrière nous là. À quel moment ce mythe-là existe sur la 66? À quel moment les Cadillacs sont distancés par les Harley Davidson sur cette route-là? Ou est-ce qu'elles l'ont été en fait, Alain Musset? Est-ce que c'est Easy Rider qui crée ça ou est-ce que c'est Easy Rider qui va chercher le mythe? Qui commence de la fée de la poule?
Non, vas-y Alain, vas-y.
Easy Rider prend le mythe à rebrousse-poil.
Oui, parce qu'ils font la route dans l'autre sens.
Ils font la route dans l'autre sens. Normalement, la route, c'est de l'est vers l'ouest. Et eux, ils prennent la route 66 dans l'autre sens, parce que ce sont des rebelles, effectivement. Parce que, d'ailleurs, c'est un film qui a été très mal perçu au départ, parce que, bon, honnêtement, il est très dérangeant. Et puis ensuite, ils quittent la route 66 pour aller vers la Nouvelle-Orléans. Mais le mythe se crée avant. Avant Easy Rider, et ce sont effectivement ces grandes, c'est Cars, le dessin animé de John Lasseter. Là, on est en plein dedans. Ce sont les voitures. Ce sont les voitures qui créent le mythe.
Mais alors, c'est les voitures qui créent le mythe. À quel moment les motos prennent le mythe, en fait, ou créent le mythe? Ou est-ce qu'on imagine, parce qu'on aime bien lire Franck Margerin, que les Harley ont pris le pas, mais est-ce qu'il y a un moment où... Parce qu'aujourd'hui, sur ce qu'il en reste, des morceaux de tronçons à côté d'une grande autoroute, il n'y a plus que des vieux sur des Harley, pardon.
C'est pas faux. Je pense qu'effectivement, Easy Rider y est pour beaucoup, parce qu'après, tous les gens ont eu envie de ce fantasme de prendre la route en moto, alors pas forcément sur un chopper sans frein à l'avant, mais en tout cas sur une Harley Davidson, ça fait partie du mythe. Tous les bikers rêvent de ça.
C'est marrant parce qu'on a l'impression que plus elle se dématérialise, parce qu'il n'en reste que des petits morceaux ici et là, plus elle se Disneylandise, en fait, au fur et à mesure. Moins il en reste, plus c'est du décorum, tout ça, en fait, à Alain Musset.
Oui et non. Elle a été progressivement déclassée dans les années 80. Donc, elle a disparu parce qu'il y avait de nouveaux systèmes avec de très, très grandes autoroutes, les grandes autoroutes américaines. Alors que la route 66, quand on passe par Outman, on y est passé tous les deux. C'est un petit village far west. Une petite route qui serpente dans la montagne. Il y a les fameux Meusanne, Dockman. On est là dans un petit univers ce qui va changer, c'est qu'effectivement, à partir du moment où elle est déclassée, on la redécouvre. Et là, elle devient patrimoine et les gens, comme vous l'avez dit au départ, ils se l'approprient. Ils disent, mais on a perdu quelque chose. Il y a Seligman, Angel Delgaldio, qui est un barbier, un coiffeur, va lancer une association pour le souvenir de la 66, pour préserver la 66. Et à partir de là, on est déjà dans les années 80. À peine la route est déclassée, elle commence à entrer dans la mémoire. Il y a une mise en mémoire, il y a une mise en scène. Et maintenant, il y a des musées. Il y a tout ce qu'on veut sur la route 66.
On parlait d'Amérique fantasmée, il y a l'Amérique fantasmée, il y a l'Ouest fantasmé, il y a une espèce de recréation de Far West qui a disparu depuis même avant qu'elle soit construite, cette route. C'est ça qui est fou. En fait, on traverse le Grand Canyon, on a envie de voir des Indiens, mais la route date de 1926, ils avaient de toute façon disparu depuis bien avant 1926.
Oui, on l'a fait tous les deux, effectivement. Mais on recrée, alors il y a des endroits à Williams, par exemple, on a recréé un petit, à la ville, on a recréé un petit quartier western. Où il y a même des duels avec le feu.
Oui, des passages de diligence très régulièrement. Et une dernière chose que je voudrais voir avec vous deux, il y a autre chose qui frappe, c'est ce que vous dites d'ailleurs à la fin du long papier sur la 66. Il manque une chose essentielle quand même. Il n'y a pas de noir sur cette route. C'est un fantasme de blanc, c'est un trajet de blanc, c'est une route de blanc, c'est un objectif de blanc, zéro noir.
Et on les a effectivement oubliés, mais aujourd'hui, justement, comme je dis, l'oubli, c'est une sorte de boomerang. On l'envoie et boum, il vous revient dans la figure. Ils ont été oubliés. oubliée. Mais on a maintenant tout un projet de récupération de la mémoire noire, parce qu'il y avait beaucoup de noirs qui sont partis, parce que justement, après la guerre de sécession, beaucoup de noirs sont partis travailler dans les manufactures du Nord, et notamment du côté de Chicago, et ces noirs-là ont pris la route. Mais sur la route, ils étaient mal vus. Il y avait des villes où, à partir de la tombée du jour, ils n'avaient plus le droit, la tombée de la nuit, quand le jour s'arrêtait, ils n'avaient pas le droit de séjourner en ville. Il y avait des endroits dont le nom, par exemple, du motel rappelait le KKK. Donc, ils n'étaient pas bien reçus. Mais ces noirs qui ont été oubliés, maintenant, il y a tout un processus de récupération de la mémoire. Il y a les endroits où ils étaient autorisés à entrer, à manger, ou même à prendre de l'essence, parce que c'était pas partout qu'ils pouvaient prendre de l'essence.
Ouais, c'est une autre manière de la visiter, cette 66.
Oui,
c'est peut-être une manière, effectivement, de réhabiliter ces gens qu'on a complètement effacés de cette mythologie de route. En tout cas, Franck Margerin, le petit épisode de Je veux une Harley 3, c'est celle-là qui est à la conquête de l'Ouest. Donc, si on a envie de 3, Jean Marfour a arrêté de rire. J'ai dit que je l'achèterai plus tard. Merci beaucoup, Alain Musset aussi. Ça s'appelle Cette route mythique, quand l'histoire se mêle à la légende. Il n'y a pas que la 66, hein, encore une fois, la Via Appia, le chemin de Compostelle, les routes de la soie, les grandes routes Inca, la 68 et d'autres. Et c'est publié chez Armand Collin. Merci mille fois à tous les deux.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde nous fait voyager cette fois au Kenya avec des bouteilles, des tongs, des jerrycans recyclés. On fabrique un bateau qui fera 5000 km sous les radars en Inde avec des agressions à cause d'une rumeur qui circule sur WhatsApp, figurez-vous, et des supporters mexicains qui portent en triomphe l'ambassadeur de Corée du Sud. Forcément, vous comprendrez pourquoi. La carte blanche des correspondants en Italie, c'est la dernière sortie de Salvini et le Royaume-Uni et ses égouts. Et puis tiens, puisqu'on parlait de foot, Jean-Marc Four, bonjour.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
D'ailleurs, le monde à l'envers, c'est le triomphe des migrants au football finalement.
Mais le foot, c'est de la politique. Hein. Il suffit effectivement, en plein sommet de Bruxelles, de compter les migrants et enfants de migrants dans les équipes nationales au Mondial de Russie.
Et c'est ce qu'on fera tout à l'heure à 18h55. Le tour de la planète continue sur France Inter. Courtney Barnett, Need a Little Time. I don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me, so I take a little time out. I'll take a little time out. I'm sorry that I lost my patience. You deserve better, it's true. I need a little time out. I need a little time out from me, 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 me. Courtney Barnett, Need a Little Time sur France Inter. Et Virginie Pironon, hélas, sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Virginie, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
En Inde, d'abord Virginie, une vague d'agressions suite à la diffusion de fausses vidéos sur la messagerie WhatsApp.
Des fake news, fausses nouvelles qui tuent et font des blessés, ce n'est pas du tout virtuel. Pas moins de 5 attaques en Inde rien que ce mardi dans l'état du Gujarat. La cause, une rumeur relayée sur les réseaux sociaux et donc WhatsApp à propos de ravisseurs d'enfants. Rumeur qui a provoqué plusieurs lynchages à tel point qu'une femme, une mendiante de 45 ans, en est morte et 3 autres sérieusement blessés. Alors évidemment, en Inde, sous fond de tensions entre hindous et musulmans, les rumeurs meurtrières sont loin d'être une nouveauté. Mais ce qui change, c'est l'ampleur qu'elles prennent. Les chiffres, Fabienne, donnent le tournis. Aujourd'hui, un quart des 1 milliard 250 millions d'habitants possèdent un smartphone. L'internet mobile ne coûte rien et 200 millions de personnes sont sur WhatsApp, propriété de Facebook au passage. Et dans ce contexte, le principal problème, c'est le manque d'éducation à l'information. Pratik Sinha est à la tête d'une plateforme numérique dans le pays. Il est interrogé par Al Jazeera.
There are many first-time users in India who think that whatever comes in their WhatsApp inbox is true. So,
il nous explique qu'il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs en Inde qui pensent que tout ce qu'ils reçoivent par WhatsApp est vrai. Les amis, les parents qui relaient tous ces messages font que ça devient viral. Les gens, dit-il, ne savent pas que tout ne doit pas être pris pour argent comptant et ça entraîne forcément des dérives. Pour l'instant, les autorités n'ont pas de programme centralisé pour lutter contre le phénomène. C'est d'ailleurs très difficile. Le chiffrement des messages fait qu'il est impossible de remonter à la source d'une rumeur sur WhatsApp. Alors localement, les autorités tentent de faire de la prévention, diffusion de messages par haut-parleur ou lors de concerts. En un an, selon la presse indienne, l'hystérie provoquée par des textos à propos de prétendus ravisseurs d'enfants a coûté la vie à 22 personnes.
Émotion en Espagne, Virginie, en Andalousie, autour du sort réservé à des cueilleuses de fraises marocaine.
Elles ont brisé le silence pour la première fois ici sur la radio de la plateforme numérique Yabiladi.com. Elles sont une dizaine, 10 saisonnières marocaines à accuser leur employeur de mauvais traitements et de harcèlement sexuel, voire de viol. Rien que cette année, 16 000 marocaines en situation de grande précarité sont venues en Andalousie pour la cueillette des fraises. Tout est arrangé depuis le Maroc, mais sans signer de contrat. Elles doivent être âgées de 18 à 45 ans, issues du milieu rural, en bonne santé et avoir des enfants de moins de 14 ans, histoire de s'assurer qu'elles rentreront ensuite bien au pays. On leur promet 6h30 de travail par jour, payer 40 euros, un jour de repos par semaine, logement gratuit. Et une fois arrivé, ça se transforme en une paye au rendement. 75 centimes le panier de 5 kilos, cadence infernale, logement dans des préfabriqués à 6 par chambre sur des lits superposés. Logement pour lequel elle devait payer 3 euros la nuit et dans certains cas, des passeports confisqués, voire des agressions sexuelles. Alors l'affaire secoue l'Andalousie depuis que 5 d'entre elles ont choisi de porter plainte. 5 autres promettent de le faire. Leur employeur nie les faits et affirme qu'elles auraient monté ce scandale uniquement pour rester en Espagne.
Et voilà comment on explique aussi pourquoi les fraises espagnoles sont exactement si peu chères. On termine, Virginie, par cette scène totalement improbable. Ça se passe hier au Mexique.
Une scène, Fabienne, que seul le sport, en l'occurrence le mondial de foot, peut offrir. L'ambassadeur de Corée du Sud à Mexico, porté en triomphe sur les épaules de supporters mexicains, au cri de « Corée, notre sœur, maintenant tu es mexicaine ». Évidemment, quelques secondes plus tôt, la Corée du Sud venait d'éliminer la tenante du titre, l'Allemagne. Scénario hautement improbable qui permet donc au Mexique de se hisser en 8e de finale, inespéré. Alors que la penaude Mannschaft vient de rentrer en Allemagne à Francfort cet après-midi, la fête n'est pas perdue pour tout le monde.
Comme vous dites, Virginie Pironon, merci beaucoup.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et donc, comme prévu, c'est au Kenya que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. Le Kenya, ses rives de l'océan Indien. Vous savez combien toutes les plages du monde sont jonchées de plastique. On en a beaucoup parlé ici même. Or, depuis les plages de sable fin de Diani, station balnéaire qui est proche de la Tanzanie, jusqu'à l'île de Lamu, qui est le berceau de la culture Swahili, les habitants collectent, ils trient les déchets. Mais pourquoi faire ? Bonsoir, Laure Broulard.
Bonjour.
Bonjour à vous. Eh bien, tous ces déchets pour construire un boutre. Un boutre, c'est un bateau traditionnel Swahili, 20 mètres de long. Celui-ci sera tout en plastique recyclé. Le but étant de naviguer ensuite de Lamu jusqu'au Cap, en Afrique du Sud. Et alors, vous allez nous faire visiter ce drôle de chantier naval.
Oui, après plus d'un an de travail, le prototype du flip floppy est presque prêt. Il devrait prendre la mer pour la première fois dans quelques semaines. Le flip floppy, c'est un nom qui vient de l'anglais flip flop ou tong, ces chaussures en plastique que l'on trouve par centaines de milliers sur les plages de la région. Écoutez Alice Kanda, chef de chantier et capitaine.
Voici notre premier boutre, en plastique recyclé. C'est un modèle unique. Une fois fini, il fera près de 10 mètres de haut et 7,50 mètres de large. Nous cherchons actuellement une voile et un mât en matériaux recyclés, car nous voulons que tout soit 100% recyclé. Et toute la coque sera recouverte par des motifs faits à partir de tong que l'on trouve sur nos plages. Ce sera donc un boutre très coloré.
À l'origine du projet, Ben Morrison et Dipesh Pabari, deux professionnels du tourisme alarmés par la dégradation de la côte kényane. À Lamu, en effet, pas moins de 33 tonnes de plastique ont été récoltées en seulement un été. Un danger mortel pour les poissons, les tortues de mer, les ânes et les vaches qui l'ingurgitent, ainsi que pour l'économie de la côte kényane qui repose essentiellement sur le tourisme. Alice Kanda a vécu toute sa vie à Lamu.
All the time I go for fishing.
À chaque fois que je vais pêcher, je vois toujours plus de plastique. J'ai vu de nombreux ânes souffrir et mourir après avoir mangé des bouts de plastique. Je voudrais donc que ce boutre soit un message. Et vu que c'est un objet mobile, le message pourra toucher beaucoup de gens, leur faire comprendre les conséquences du plastique pour notre environnement et pour nous-mêmes.
Sur l'île de Lamu, on est constructeur de boutres de père en fils. Ce bateau de bois à voile triangulaire navigue le long des côtes est-africaines depuis plus de 1000 ans. Mais aujourd'hui, la déforestation et une récente interdiction de l'abattage des arbres par le gouvernement kényan mettent en péril cette tradition. Le plastique pourrait donc être une alternative, explique Ahmed Bakari en train de poncer le bastingage.
Aujourd'hui, nous montrons l'exemple. Et si nous pouvons construire un bateau en plastique recyclé, d'autres peuvent le faire. Mais aussi construire des meubles et des maisons de cette manière. Et puis le bois, ça pourrit, c'est attaqué par les parasites. Mais si les parasites tentent de manger le plastique, ils vont se casser les dents.
Entre 30 et 40 000 tongs et plusieurs dizaines de tonnes de plastique ont jusqu'ici été utilisées pour construire le petit flip-floppy. Il faudra 45 tonnes de plastique et 200 000 tongs pour le boutre final.
Et 200 000 tongs, en effet, ça fait beaucoup. Alors l'odyssée de ce matériel commence à 200 km au sud de Lamu, sur les plages paradisiaques de Watamu, Laure.
Oui, et à Watamu, les déchets sont devenus une source de revenus pour la population. Penchée sur le sable, Mathilda Mathias remplit petit à petit un grand sac poubelle. Elle fait partie de la Blue Team, une équipe de locaux qui ramasse chaque jeudi le plastique sur les plages depuis 2009.
Aujourd'hui, nous nettoyons la plage. Nous ramassons des bouteilles en plastique, des bouchons, des sacs, puis nous nous rendons au centre de recyclage et nous les trions. Et c'est comme ça que nous gagnons notre pain quotidien.
Une fois trié et déchiqueté, le plastique est envoyé à l'usine de recyclage de l'entreprise Regeneration Africa, dans la petite ville de Malindi. Là, il est fondu, puis moulé pour former l'armature du flip-floppy. Pour Sam Ngarouya, le directeur, créer un matériau adapté à la navigation a été un véritable défi.
Nous avons essayé avec une première formule, mais cela n'a pas fonctionné pour le bateau. Pour ce projet, nous n'avons pas cessé de tester et d'apprendre, depuis le matériau lui-même jusqu'au moule. Il a aussi fallu éviter les bulles dans le plastique. Pour nous, c'est tout simplement une question d'innovation et de créativité. Le plastique n'est pas nécessairement un problème. Une fois que nous aurons créé des produits de valeur à partir du plastique, cela entraînera naturellement les pratiques de recyclage. Et nous cesserons de voir les ordures comme des ordures.
Au Kenya, la gestion des déchets par le gouvernement est souvent insuffisante et problématique. Les efforts concertés de la côte, qui préservent l'environnement tout en créant des emplois, sont donc un exemple à suivre, estime Dipesh Pabari, un des concepteurs du projet.
C'est une campagne contre le plastique entièrement africaine. C'est un aspect très important pour nous. En règle générale, ce type de projet est conceptualisé en Occident et adapté sur le continent africain. C'est la première fois qu'un tel projet est entièrement organisé dans cette partie du monde. Le fait d'utiliser un boutre, un objet très symbolique, pour résoudre un problème global avec une solution africaine, cela prouve que nous sommes capables de tout.
Well, it tells you that, you know, we can do anything.
Reste à savoir si le bateau fonctionnera. Le petit prototype du Flip Floppy devrait bientôt pouvoir emmener les touristes tout le long de la côte kényane, puis passer par Zanzibar pour atteindre le nord du Mozambique. Et si tout se passe bien, le boutre final pourrait être fini d'ici 2 ans et porter son message jusqu'en Afrique du Sud.
On a bien compté les 200 000 tongs nécessaires. Ça fait beaucoup de tongs. Laure Broulard au Kenya, merci beaucoup.
BBC News, Jazeera, CBS Morning News,
France Inter, Public Broadcasting, le 18-20,
equals more reasons to watch.
Un jour dans le monde.
À carte blanche des correspondants de France Inter, tous les jeudis, qui partagent avec vous les petites et les grandes histoires de leur pays. C'est d'abord en Italie que nous allons. Bonsoir Mathilde Inverti.
Bonsoir à tous.
Mathilde, on a bien compris que votre nouveau ministre de l'Intérieur était très très accaparé par le thème du sommet qui s'ouvre aujourd'hui. Mais il n'y a pas que le front des migrants chez vous pour Matteo Salvini, qui a aussi déclaré la guerre à Roberto Saviano, c'est l'auteur de Gomorra, menaçant de lui retirer son escorte policière parce qu'il a critiqué la position de la Ligue. Et selon vous, si on veut être optimiste, cette polémique, Mathilde, a du bon.
Et oui Fabienne, parce qu'elle a replacé sous les projecteurs non seulement Saviano et son exil forcé aux États-Unis, mais aussi tous ces journalistes condamnés à mort en Italie. Une chaîne de solidarité est née sur les réseaux sociaux, une plateforme de dénonciation des mafias a vu le jour. De quoi soutenir le moral d'un journaliste bien moins connu que Roberto Saviano, mais tout aussi menacé, Paolo Borometti, 35 ans, entretien tourné avec lui dans un bar de Rome.
Sono Paolo Borometti,
Je suis Paolo Borometti, je vis avec 5 condamnations à mort, provenant de 5 clans siciliens, entre Ragusa, Syracuse, Caltanissetta et Catane. Je reste très marqué par ce qui a failli m'arriver au mois d'avril. La police a découvert un projet d'attentat avec une bombe placée dans une voiture qui devait me tuer, moi et toute mon escorte.
Mais alors qu'est-ce qui lui a valu ce projet d'attentat ?
Une enquête dans laquelle il démontre que le deuxième plus gros producteur de tomates Pacchino, ce sont les fameuses tomates siciliennes, eh bien ce producteur était aux mains d'un chef mafieux. L'entreprise a dans la foulée perdu des millions d'euros de commandes. Comme Paolo Borometti, une vingtaine de journalistes vivent sous escorte en Italie, mais aussi quantité de magistrats, d'entrepreneurs, de prêtres même et des élus.
Dans ce bar où l'on est en train de causer, j'ai un homme armé à droite, un à gauche et un derrière moi. C'est l'escorte et ce n'est pas un privilège, c'est un enfer. Tu dois tout restreindre. Ça fait 5 ans que je ne suis pas allé à la plage, chez moi, en Sicile. Impossible de sortir pour un concert. L'escorte est évaluée au terme d'une longue procédure selon le risque que chacun court. Et en fait, ce n'est pas politique. Aucun ministre à lui tout seul ne pourra décréter qu'il l'assigne ou qu'il la retire.
Alors en clair, Matteo Salvini peut parler, nous continuons de travailler et l'agence de presse de Paolo Borometti vient de lancer une plateforme de lanceurs d'alerte qui s'appelle Mafia Leaks.
Nous avons déjà reçu des signalements que nous étudions attentivement. C'est un projet important et même révolutionnaire. Les gens postent des données de manière parfaitement anonyme. Et les journalistes, via cette plateforme, composent des équipes et analysent chacune de ces informations.
Mafia Leaks, ben on y reviendra avec vous, voir un peu ce que ça donne et où ça nous emmène chez vous en Italie, décidément un pays où il se passe des choses. Mathilde Inverti, merci mille fois et à très vite. Bonsoir Londres.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, Antoine Gignot. Antoine, pour la dernière d'un jour dans le monde, bravo, vous avez la palme de l'info dégoûtante, honnêtement, allons-y franchement. On avait déjà parlé du fatberg, cette espèce de paquet de gras et de détritus qui bouchait les égouts chez vous, ce qui est quand même très joyeux. Il a été exposé au musée de Londres, quelle drôle d'idée, et il commence à se transformer, mais quelle horreur.
Absolument, c'est même le succès de l'année pour le musée de Londres. L'exposition qui a fait venir le plus grand nombre de visiteurs, des classes, des familles, ont admiré ces derniers mois, cette tranche de graisse et de déchets qui a été présentée au public et qui donne une petite idée du monstre de 250 mètres de long qui bouchait les égouts. Il a fallu 9 semaines aux employés de la ville avec des machines-outils pour s'en débarrasser.
Mais c'est ignoble.
Et il a été disséqué pour mettre en évidence les bactéries, les produits qui se trouvaient à l'intérieur avant d'être enfermé dans une vitrine. Mais le problème, c'est que 5 mois plus tard, ce fatberg est toujours vivant avec des éclosions de mouches et des moisissures, des poils qui poussent à la surface. Écoutez, c'est Andy Holbrook, c'est le directeur des collections.
Comme vous le voyez, il a changé de couleur. Il est devenu blanchâtre, il s'est calcifié, il ressemble un peu à une pierre. Quand on l'a récupéré, il était très humide, un peu comme de la cire. Vos doigts s'enfonçaient à l'intérieur et ça sentait comme des toilettes bouchées. Sympa, non? Je ne sais pas si c'est moi qui me suis habitué, mais maintenant, j'arrive à surmonter mon envie de vomir.
Non, mais pour l'odeur. Alors, pour l'instant, ce fatberg va être mis en quarantaine,
bah oui,
traité comme des eaux usées, bah oui. Et le comité des collections décidera dans le mois qui vient si on le conserve pour toujours en tant qu'objet rare ou si on l'envoie aux ordures. Il y a deux possibilités.
Bah, est-ce que je peux voter? C'est non. Mais arrêtez maintenant. Et 250 mètres de long, c'est ça que vous avez dit, Antoine?
Impressionnant, hein, 200... deux fois la taille de Wembley. Ouais.
Mais le monstre du Loch Ness, ça y est, la voilà, l'énigme enfin résolue. Merci beaucoup. Alors, il y a autre chose qui a changé de couleur et ça n'a rien à voir chez vous, Antoine, c'est la tête de Nigel Farage.
Ah oui, il n'a jamais caché sa sympathie pour Donald Trump, l'ancien leader d'extrême droite. Mais là, les journaux se demandent si ça ne va pas un peu trop loin. Le président des États-Unis arrive mi-juillet en Angleterre pour une visite officielle. Et dans sa dernière apparition publique, Nigel Farage a dévoilé une chevelure jaune-orangée du plus bel effet. Mmh. Son entourage dément toute teinture, mais il est tout de même passé du gris-souris à la couleur tournesol bien mûr. S'il se montre aux
c'est
caméras...
l'admiration pour Trump, non ?
C'est possible. S'il se montre aux caméras, ce n'est pas pour parler de ses cheveux, mais c'est pour parler du Brexit. La première ministre Theresa May est à Bruxelles cet après-midi pour essayer de débloquer les négociations. Le temps presse. Après Airbus et BMW, la totalité des constructeurs auto menacent maintenant de délocaliser leurs usines. Il y a 800 000 emplois en jeu. Résultat, les députés qui font partie du comité sur la sortie de l'Union européenne ont publié cette semaine un rapport. Il faudra, disent-ils, repousser la date de sortie de l'Union européenne pour arriver à obtenir un accord commercial entre Bruxelles et Londres. Et Nigel Farage, évidemment, trouve ça inacceptable.
La seule chose qu'on a obtenue, c'est de quitter l'Union européenne le 31 mars à 23h. Tout le reste, qu'il s'agisse de reprendre le contrôle de la pêche, d'avoir la liberté de conclure des accords commerciaux ou reprendre le contrôle des frontières, pour l'instant, cela ne nous va pas. Alors franchement, si on décale la date du 31 mars, ce sera vraiment ce qu'on appelle de la trahison.
Des mots grandiloquents. Theresa May, elle, est censée s'adresser aux dirigeants des 27 ce soir pendant le dîner. C'est pas sûr qu'elle ait beaucoup d'écoute et de soutien parce que le match de foot entre l'Angleterre et la Belgique tombe en même temps et le Premier ministre belge, tout à l'heure, a ironiquement distribué des maillots et des écharpes aux couleurs de son équipe à ses collègues, y compris à Theresa May. Londres, Bruxelles, le match continue.
Eh ben écoutez, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt, à la fois le match et aussi ce que dit Theresa May, ce qui se passe évidemment à Bruxelles. Antoine Gignot, merci beaucoup. J'irai jamais au musée avec vous, je vous le dis, c'est clair et net. Jamais de ma vie, même sous la torture. Allez, merci à vous.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Tiens, transition toute trouvée finalement.
Absolument.
Jean-Marc, on va y aller tout de suite. Les discussions donc s'annoncent houleuses à Bruxelles, ça on le sait. Les Européens, nous le savons aussi, doivent aborder ce fameux dossier des migrants. Les points de désaccord sont innombrables. Et vous vous dites, attendez, il y a peut-être un moyen de voir les choses plus positivement sur les migrants. Il suffit de prendre un autre point de vue. Eh ben, c'est celui du foot. Parce que la Coupe du Monde de foot, c'est aussi, d'une certaine façon, un vrai sommet de migrants.
Moi, je suis d'accord avec Antoine Gignot. Je dis que tout à l'heure, les dirigeants européens devraient marquer une pause dans leurs négociations pour regarder Angleterre-Belgique, puisque c'est l'affiche vedette de ce soir. Parce qu'on est en fait en plein dans le sujet. Au premier coup d'œil, les matchs de foot entre équipes nationales, c'est le grand moment du patriotisme, de l'exacerbation de la nation. En fait, ce sont aussi des symboles de l'immigration. Reprenons Angleterre-Belgique. Mmh. Côté anglais, un quart de l'effectif est d'origine étrangère. La nouvelle pépite Sterling est née à Kingston, en Jamaïque. Et parmi les plus jeunes de l'équipe, nombre d'entre eux sont également de parents étrangers, jamaïcains, nigérians ou bien du Guyana. En face, côté belge, alors là c'est encore plus saisissant. L'attaquant vedette, Lukaku, qui est deuxième au classement des buteurs pour l'instant, est de parents congolais. Et au total, la Belgique compte 9 joueurs d'origine étrangère. Congolais donc, mais aussi camerounais, maliens ou marocains. Et tous sont de la deuxième génération, c'est-à-dire qu'ils sont tous nés en Belgique. Phénomène encore plus marqué pour la France et pour la Suisse. Sur les 23 joueurs français, 15 ont des origines africaines. L'un d'eux, Umtiti, est d'ailleurs né au Cameroun. Tous les autres, les 14 autres, sont nés en France. De parents étrangers, venus du Mali, N'Golo Kanté, de Guinée, Pogba, et aussi du Congo, du Togo, d'Angola, du Maroc, d'Algérie. Dans l'équipe suisse, la proportion est presque aussi forte, mais les origines là sont assez différentes, avec notamment 6 joueurs venus des Balkans, du Kosovo en particulier. C'est l'incarnation d'une très forte communauté kosovare qui existe en Suisse. On parle de 200 000 personnes. L'entraîneur, lui, vient de Bosnie. Ajoutons encore l'Allemagne. L'équipe nationale a beaucoup évolué dans ce sens depuis 10 ans. Oui, en l'occurrence, c'est sûr que pauvre. Voilà, pauvre Mannschaft. Mais elle a beaucoup évolué dans le sens du multiculturalisme sous l'impulsion de son entraîneur Joachim Löw. Avec cette année, 7 joueurs de la deuxième génération d'immigration. Par exemple, Boateng, qui est d'origine ghanéenne, Ozil et Gundogan, qui sont d'origine turque. Si on se résume, les grandes équipes européennes sont aujourd'hui l'incarnation des mélanges migratoires.
Alors là, vous nous parlez des pays d'arrivée des migrants, mais il y a aussi une Coupe du Monde des pays départ. Et ça se traduit comment, cette affaire?
C'est très intéressant aussi pour d'autres raisons. C'est comme un effet miroir. Exemple le plus frappant, le Maroc. Sur les 23 joueurs, seulement 6 sont nés au Maroc. Sur les 17 restants, la plupart sont nés en France. C'est vraiment les enfants de l'immigration venus en France. Par exemple, le défenseur vedette Ben Attia, qui est natif de Courcouronnes. Il y en a aussi 5 dans l'effectif marocain qui sont nés aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, certains d'entre eux ne parlent que le néerlandais. Ce qui fait que dans le vestiaire marocain, c'est assez compliqué. Visiblement, on parle à la fois en arabe, en français, en anglais, en néerlandais. C'est la tour de Babel. Autre exemple, Sénégal, avec ben là aussi, malheureusement, le Sénégal éliminé. Le Sénégal avec 9 joueurs nés en Europe, 8 en France. Ils sont nés à Reims, ils sont nés à Lormont, près de Bordeaux, à Marseille, à Mantes-la-Jolie, etc. Et on pourrait également citer le Portugal, avec plusieurs joueurs qui sont nés dans d'autres pays d'Europe. Là encore, effet de l'immigration des parents. Et en plus, ces mélanges culturels ont un impact sur le style de jeu des équipes. Par exemple, le style du Sénégal est souvent proche du style de la France. Celui du Nigeria est plus inspiré du football britannique. Ce sont des effets directs des phénomènes migratoires.
Donc, généralement, ce sont des intégrations et des mélanges réussis, mais parfois, le nationalisme ressurgit dans sa forme la plus xénophobe.
Et on en a eu déjà 2 exemples depuis le début de cette Coupe du Monde. Premier exemple, l'Allemagne. Peu avant la compétition, les 2 joueurs d'origine turque, on en parlait tout à l'heure, Ozil et Gundogan, ont posé avec le président turc Erdogan en pleine campagne électorale. L'extrême droite allemande a crié au scandale, atteinte au patriotisme, la voiture de Gundogan a été saccagée et hier, après l'élimination de la Mannschaft, plusieurs supporters s'en sont pris à Ozil. Ozil, c'est pourtant un grand joueur, il est né à Gelsenkirchen, près de Dortmund, on peut difficilement faire plus allemand, 90 sélections avec l'Allemagne, eh bien ça n'est pas une garantie suffisante. Deuxième exemple, la Suisse, vendredi dernier, face à la Serbie, elle l'emporte grâce à ses 2 vedettes d'origine kosovare, Hakka et Shaqiri. Et ils ont célébré leur but en faisant le signe de l'aigle bicéphale. C'est comme ça, c'est le symbole de la Grande Albanie qui est la rivale historique de la Serbie. Regardez, je vous ai apporté une photo, je vais vous la montrer. Ce sont en gros plan les chaussures de foot de Shaqiri. Regardez bien Fabienne, de près. Et regardez bien à l'arrière. Sur sa chaussure gauche, il y a le drapeau suisse. Et sur sa droite, il y a le drapeau kosovar.
Ah oui, c'est vrai.
Eh oui, controverse immédiate en Suisse. Avalanche de critiques venues, là encore, des milieux nationalistes. Donc c'est finalement une question simple et elle nous ramène bien au sommet de Bruxelles. Faut-il renier totalement son pays d'origine pour être pleinement accepté dans son pays d'accueil? Comme quoi, le foot, c'est de la politique.
À tous les étages, Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers, merci beaucoup. La suite du 18-20, c'est le journal de Pierre Veil et puis ensuite le téléphone sonne. Merci de nous écouter. Mettez-vous à l'aise parce qu'on va parler naturisme ce soir. Donc profitons-en et allons-y. Je rappelle que j'ai dit que je ferais l'émission nue uniquement si quelqu'un dans la radio avait parié 2-0 pour la Corée contre l'Allemagne. Donc tout va bien, on va tous rester textiles ce soir et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est 19h.